RTV 95.7, Music & News, avec Marianne Attanchot.
Écoutez Music & News tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h sur RTV 95.7.
Bonjour, je suis Thierry Méranger, je suis le responsable du festival Regard d'ailleurs de Dreux, dont la 22e édition va être dédiée au Brésil très bientôt, entre le 5 mars et le 2 avril.
Bonjour, je suis André Ablé, le trésorier de l'association Fenêtre sur Film.
Eh bien, Fenêtre sur Film, c'est une association qui a été créée il y a 14 ans pour être la cheville ouvrière du festival Regard d'ailleurs et pour créer un certain nombre de manifestations, d'animations autour du cinéma, destination de tous les publics, avec une politique culturelle à la fois exigeante mais populaire et qui a toujours un lien d'une certaine façon avec l'éducation. Ça remonte alors là pour le coup à 23 ans, même 24 ans en arrière. À cette époque, il y a une politique cinéma, culturelle et éducative qui est décidée sur Dreux par un certain nombre d'instances, parmi lesquelles la ville, l'aglo déjà à l'époque, et également le lycée Rotrou qui songe à ce moment-là, enfin qui même vient de réussir à obtenir l'autorisation d'ouvrir une spécialité cinéma. Concurremment, ou plutôt parallèlement, l'option va se développer avec des activités. Et la première activité culturelle, première sortie que nous imaginons, c'est de créer un festival qui sera dédié tous les ans à un pays étranger différent, pour montrer finalement que Dreux est aussi une tradition d'ouverture, d'accueil, et puis là aussi que nos jeunes ensuite peuvent aller eux aussi rayonner ailleurs. Alors l'évolution d'abord, c'est une progression qui a été assez spectaculaire, puisque sur la première édition qui était dédiée au Portugal, alors ce qui est drôle c'est que on boucle une boucle en allant au Brésil cette année, la première édition dédiée au Portugal, nous avons, voilà, il faudrait vérifier, mais nous avons 7 ou 8 séances, nous avons quelques dizaines, centaines de spectateurs on va dire. Aujourd'hui, toutes séances confondues, pour les jeunes, les moins jeunes, les tout publics et les scolaires, on dépasse largement les 120-130 séances et nous avons atteint pas plus de 20 000 visiteurs ou spectateurs l'an dernier, avec une progression constante d'une année à l'autre, en sachant que nous avons aussi des expositions, des événements et que nous essayons de rayonner à travers tout le territoire drouais. Donc bien sûr, en restant ancré dans le cinéma, mais aussi en allant sur d'autres lieux comme à Dreux, en particulier les maisons Proximum, à Vernouillet, les maisons de quartier, et puis toutes les communes, les petites communes de l'agglo. Soit nous favorisons l'accès de ces populations aux séances drouaises, soit même quand on est en moyen de nous recevoir, on va porter la bonne parole en quelque sorte en organisant des projections là-bas. Il y a cet aspect de culture de l'image, culture du cinéma. Aujourd'hui, c'est très important, évidemment, de savoir qui sont les cinéastes, femmes et hommes qui comptent. C'est vraiment quelque chose de voilà, parce que c'est le cinéma, la création, on va dire, à l'état vif qui est en jeu. C'est important de connaître le cinéma. C'est important aussi de maîtriser le vocabulaire de l'image. On nous demande toujours aujourd'hui à la fois d'avoir un esprit critique et même quelquefois d'être capable de créer des images. Nous avons tous aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, dans nos poches, nous avons de quoi faire des images. Tout le monde pratiquement a ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce que l'image peut? Est-ce que l'image est orientée ou pas? Comment on oriente l'image? Voilà, tout ça, ce sont des questions très, très vastes. Donc ça, c'est l'éducation à l'image. Et l'autre versant, qui est extrêmement important aussi, c'est l'éducation par l'image et par le cinéma. C'est-à-dire que dans un festival comme Regard d'ailleurs, eh bien, on va évidemment parler beaucoup cinéma, mais on va aussi aborder des tas de thèmes que le cinéma va permettre d'aborder. Ça, on pourra peut-être en reparler, mais c'est quelque chose d'important. On ne se contente pas de se regarder le nombril entre cinéphiles et cinéastes, et même pas seulement avec les élèves qui sont nombreux et qui étudient le cinéma sur le territoire. On va aussi aborder d'autres thèmes qui sont des thèmes de société absolument fondamentaux. Alors le festival, il dure quasiment un mois et je dois dire qu'il s'adresse quasiment à tout le monde, puisque on commence avec des séances pour les vraiment les tout petits. On a des séances avec des films sans parole pour des maternelles. Et à l'autre bout de l'éventail, nous avons des séances en EHPAD. Et puis évidemment, les séances tout public, les gens peuvent s'abonner, venir à 15 séances s'ils le veulent à Ciné-Centre, plus toutes les autres séances sur tous les autres lieux qui sont en entrée libre. Donc ça fait quand même vraiment beaucoup de possibilités pour le public de participer. Et d'où cette longueur qui peut paraître démesurée. Il ne vous a pas échappé que nous sommes le plus long festival de France. Alors plus long pourquoi ? Il ne s'agit pas du tout de faire de la gonflette. C'est de se dire que dans une ville comme Dreux, ça n'aurait absolument pas de sens d'avoir un festival concentré sur 5 jours, à un moment d'ailleurs où les gens sont pour beaucoup au travail. Donc l'idée, c'est que en dilatant en quelque sorte un festival sur un mois, des gens qui, on va dire, ont au départ un intérêt modéré pour le thème ou pour le cinéma tout court, peuvent facilement venir voir 10 séances, 15 séances, 20 séances, et il y en a même qui font plus. Il y en a quelques-uns qui essayent de faire toutes les séances que Regard d'ailleurs propose. Et ça, ce n'est possible que si on étend la durée du festival, évidemment. On ne peut pas, comme on n'est pas le festival de Cannes, on n'a pas la même temporalité. On ne va pas imaginer à Dreux qu'on ait à la même heure deux séances majeures qui se font concurrence. Donc l'idée, c'est que les séances se suivent, que du coup on prépare une progression, une forme d'ordre. Après, il y a les rediffusions qui rendent les choses rattrapables si on a raté un événement. Mais je dirais que l'idée, c'est qu'il peut y avoir à chaque moment, en tout cas toutes les soirées, les week-ends bien entendu, et même les mercredis qui sont des jours pleins aussi, il se passe quelque chose, il y a un événement particulier sur le festival. Alors l'an dernier c'était la Grèce, on a effectivement battu notre record d'affluence, donc ce qui est quelque chose de tout à fait réjouissant. Des expositions qui ont magnifiquement fonctionné, notamment à la chapelle de l'Hôtel Dieu et sur les mythes grecs. L'idée, c'était de lier la Grèce mythique, mythologique, historique, si j'ose dire, de l'Antiquité, nos racines, avec la création de jeunes cinéastes grecs d'aujourd'hui. Donc d'avoir à la fois des classiques genre Costa Gavras et puis des tout jeunes, comme, enfin, ou plus ou moins jeunes, en tout cas des contemporains comme Panos Koutras, voilà, un nom donné au hasard. Et je pense que le public a répondu présent. On a vu des dizaines de gens danser le Sirtaki à Ciné-Centre avant Zorba le Grec. On a vu, on a fait ça le comble lors du repas du festival. Enfin voilà, il y a plein d'événements périphériques, mais qui en même temps étaient des événements liés au cinéma. Je veux dire que quand on fait une séance de danse, on danse le Sirtaki, c'est très très bien, moi je suis tout à fait pour le Sirtaki, mais c'est parce que dans le film, il y a la séquence iconique de Anthony Quinn qui est en train de danser le Sirtaki dans le film de Kakoyanis. Donc vous voyez, on essaye en fait de créer des liens, des fils, et de se développer là où on n'était pas. On crée un café littéraire avec Philippe Lipschitz, on est partenaire avec des commerçants, avec La Rose des Vents, RTV bien sûr, enfin voilà. Et on essaie de tirer tous les fils, mais de manière à faire en sorte que ça n'apparaisse pas comme des efforts dispersés, que les liens apparaissent d'une certaine façon, et que les gens, voilà, de fil en aiguille se disent, tiens, mais ça me fait penser à ça, tel invité, parce que les invités, c'est aussi le nerf de la guerre, fasse penser à tel autre invité, faire penser à tel autre film ou à tel événement dont on aura entendu parler à la télévision, à la radio, sur Internet. Il y a des moments vraiment fabuleux. Il y a la rencontre vraiment magnétique avec Charlotte Rampling, vraiment une très, très grande dame du cinéma et qui vient nous consacrer une séance et qui vient en toute simplicité. Je crois qu'elle a vraiment tout à fait magnétisé le public, on peut dire. Voilà. J'ai des séances de très belles de cérémonies d'ouverture. C'est quelque chose alors qui a un peu forcément échappé au public, mais la cérémonie d'ouverture l'an dernier était extrêmement importante parce qu'on s'est senti soutenu par la quasi-totalité des collectivités territoriales qui étaient autour de nous. L'État était représenté, les artistes étaient représentés. Et tout ça pour créer, l'idée c'est pas de se faire voir, c'est de montrer que tous ces gens, toutes ces instances sont au service de quelque chose qui tient à une forme d'éducation populaire et en même temps de préservation de la culture et de travail sur le rayonnement du territoire. Parce que finalement, nous sommes quand même là pour ça aussi, pour ça que nous sommes aidés. Et on essaye effectivement de faire fructifier ce qu'on nous prête pour le mettre au service de la population.
Je reprendrai ce que dit Thierry au sujet de Charlotte Rampling, qui s'est retournée vers le public et qui a applaudi le public. C'est la première fois, Thierry, je
c'est
crois.
Vrai, que... C'est vrai.
Et elle nous a remercié le lendemain en nous envoyant un petit message. Voilà, elle a très très bien apprécié cette soirée. Elle a été touchée, je pense, par notre présence. Enfin, nous, on l'a touchée par la sienne, mais elle a été touchée par notre présence. C'était un petit peu le moment magique. Et c'est vrai que ces retours sont pour nous très bénéfiques. Enfin, je veux dire, nous qui sommes bénévoles, on se rend compte que c'est important aussi d'avoir ce contact direct avec ces personnages, ces personnes qui font la culture cinématographique, pardon. Et dont nous, on se nourrit à travers leurs exploits sur les personnages qu'ils jouent et dans leur rôle. Donc c'est important de ressentir leurs émotions, comme nous essayons également de partager ces émotions avec les élèves, puisque tout à l'heure nous parlions des enfants de la maternelle au lycée. Et c'est aussi notre fonction, enfin notre job profond au sein de l'association, c'est de recueillir de ces émotions et de les partager avec les élèves.
Comme le disait André, on s'en rend compte que notre public a quelque chose de particulier. Franchement, ce n'est pas de la forfanterie de le dire. La quasi-totalité de nos invités, et on en a eu des très prestigieux, des moins prestigieux, enfin voilà, des plus âgés, des plus jeunes, ils nous disent, mais oui, il y a quelque chose. On ne s'attendait pas à avoir un tel public, avoir autant de chaleur, autant de réactivité au moment des questions et des réponses. Il se trouve qu'effectivement, il y a vraiment à la fois un public large, un noyau dur, des sympathisants. Tous ces gens, finalement, véhiculent, semble-t-il, enfin c'est peut-être un peu utopique de ma part, mais je le sens comme ça, les mêmes valeurs qui sont aussi celles de l'association. Donc, d'une certaine façon, on se retrouve. Alors, c'est la 22e édition, mais ça doit correspondre à peu près à la 23e année parce que, voilà, on a fait tant bien que mal deux années balbutiantes au moment du Covid. Mais enfin, voilà, tout le monde en a été là. Alors, le Brésil, eh bien, parce que, évidemment, le Brésil, c'est à la fois un grand pays de cinéma. C'est le cinéma novo dans les années 50-60. C'est aussi de très grands créateurs d'aujourd'hui. Voilà, on a deux des plus grands créateurs d'aujourd'hui qui sont Walter Salles et Kleber Mendonça Filho, dont il faut montrer les films. Et a priori, je touche du bois, ils seront présents avec nous. Voilà, donc voilà, ça faisait partie aussi des envies. Et puis aussi, le Brésil va nous permettre, alors je ne vais pas dire indépendamment du cinéma, hein, mais en même temps, d'évoquer effectivement des questions qui sont des questions, des problèmes, des sujets qui nous passionnent. Toute la gageure, en fait, de ce festival, c'est à la fois d'offrir cette part de rêve que véhicule le Brésil. Alors, on ne va pas faire sans, la samba, la bossa nova, le football, Copacabana, Carnaval de Rio. On a une expo incroyable de costumes du Carnaval de Rio à la chapelle de l'Hôtel Dieu. Donc voilà, il y aura ce Brésil qu'on s'attend à trouver et qui fait partie intégrante de l'image du Brésil, mais aussi de son ADN. Mais on ne va pas se contenter de cette surface, on va dire, touristique, même si elle est bel et bien réelle. On va aussi regarder un petit peu là où le Brésil nous interroge. Et sur quoi le Brésil nous interroge-t-il aujourd'hui ? Ce sont des questions absolument fondamentales. J'en cite quelques-unes. La question de la préservation de la démocratie. Le Brésil vient de vivre des années absolument sombres avec la présence au pouvoir de Bolsonaro. L'extrême droite menace toujours actuellement ce pays, comme pas mal d'autres pays d'Amérique latine et du monde. Autre point important, la question de l'Amazonie. Évidemment, le poumon de notre planète, C'est un poumon que nous sommes en train de faire craber, littéralement, non ? Avec la déforestation, les incendies, etc. Voilà. Là aussi, on va en parler. Autre point extrêmement important, essentiel au Brésil, la question des cultures, des autochtones, des natifs. Notamment, là, on va parler des Yanomami, avec une très belle exposition à partir du film « La chute du ciel » qu'on va montrer en présence de son réalisateur Éric Rocha. Question extrêmement importante, évidemment, celle de l'émancipation des peuples ou tout simplement le fait de la liberté qu'ils peuvent avoir de vivre sans qu'on leur impose des modes de vie qui ne sont pas les leurs et sans qu'on les tue, tout simplement, pour être très, très direct. Voilà, d'autres thèmes, un thème évidemment essentiel pour nous, c'est la question, bien au-delà de la question de la parité, c'est la question évidemment de la femme. Les problèmes que nous rencontrons chez nous, qui sont déjà évidemment gravissimes chez nous, sont décuplés au Brésil. Hein. On pense aux questions des féminicides, aux questions de l'accès des femmes à la culture. Donc on va avoir des femmes et des hommes pour en parler. Et nous avons pris soin aussi de parler de vedettes que nous allions recevoir. On verra, on va rencontrer aussi des jeunes cinéastes, des jeunes femmes dont le nom a priori ne nous dit rien, mais des noms qui nous parleront d'ici un mois. Michaela Plotkin, Mariana Brennand, qui sont de jeunes cinéastes qui ont énormément de choses à dire sur tous les sujets que nous avons évoqués. Et évidemment, il y a un effet miroir, c'est-à-dire qu'on parle du Brésil, mais en parlant du Brésil, somme toute, moi je ne vais pas me faire, même si nous travaillons en équipe sur le Brésil depuis plus d'un an, mais je ne vais pas me faire passer pour un spécialiste du Brésil. Il faut juste savoir que quand on parle du Brésil ou de la République tchèque ou de la Corée, on ne parle finalement que de nous. S'intéresser aux autres, c'est, je pense, la plus belle façon de savoir aussi, d'essayer de cultiver notre propre jardin. Voilà, le Brésil a des choses à nous montrer. Il ne s'agit pas du tout, on n'est pas du tout dans une posture où on va très généreusement accueillir d'autres peuples, d'autres pays. Voilà, on est sous une forme d'échange, en quelque sorte, et aussi de contact avec les gens qui habitent ce territoire drouais, qui sont ravis d'avoir des gens qui viennent les voir, qui arrivent avec, en l'occurrence, leur film, ou les regards d'autres cinéastes sur ce pays. L'idée de regard d'ailleurs, c'est, bien sûr, on va montrer beaucoup, beaucoup, une grande majorité de films brésiliens, mais il n'y aura pas que des films brésiliens, il y aura des films d'autres cinéastes qui ont filmé le Brésil. Et c'est aussi vraiment le concept de base de regard d'ailleurs, c'est croiser les regards. C'est aussi regard d'ailleurs sur le Brésil. Je prends un exemple tout à fait frappant, tout le monde connaît presque le film français « L'homme de Rio ». Avec Belmondo, film, voilà, une comédie d'aventure extrêmement sympathique, aimable, etc. Mais c'est très intéressant de voir ce que ce film français nous dit sur la vision française du Brésil à un instant T. Et en plus, un film distrayant, par ailleurs, hein, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment... on touche à ce qu'est Regard d'ailleurs, je crois, à ce moment-là. Quand on a ces regards croisés qui n'essayent pas d'imposer un point de vue, mais qui disent, voilà, vous ferez votre point de vue à partir de tout ce qu'on vous propose. On ne prétend pas, nous, à l'objectivité, mais on va vous permettre de vous créer votre point de vue à partir du maximum de sources qu'on essaye de vous proposer. Sur le nombre de projections, je pense qu'on doit être à 140, quelque chose comme ça. Même un petit peu plus cette année, parce qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin, on va un petit peu plus loin dans le département, à Chartres par exemple. Alors le festival reste Drouais, mais ça c'est un bel exemple. Il y a une collaboration extrêmement intéressante avec Chartres, avec Cinéclap, l'association cousine, et Les Enfants du Paradis, le cinéma chartrain. Et donc il y a une partie voilà, qui est quand même tout à fait honorable de notre programmation qu'on va pouvoir découvrir aussi à Chartres. Voilà, on va même montrer des films au compas sur le thème évidemment de l'agriculture. Enfin, donc il y a une sorte d'extension. On travaille aussi évidemment de plus en plus avec sur des territoires, des portions de notre territoire où on ne va pas, où on n'allait pas avant, où les gens n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma, d'aller au centre-ville. On travaille effectivement avec les maisons de quartier, les maisons proximum. Ça, c'est vraiment, on crée des programmations famille. Regarde d'ailleurs, c'est à la fois des séances famille où on va pouvoir, je dis, j'invente, hein, je prends des titres presque au hasard, on va pouvoir venir se distraire en regardant L'Homme de Rio en famille. Et puis à côté de ça, on va avoir un documentaire extrêmement pointu qui suit une vieille dame qui va finir par raconter comment elle a réussi à survivre aux luttes sociales et écologiques qui ont failli, pour lesquelles elle a vraiment combattu et qui ont failli la tuer. Ça peut être, c'est pas toujours aussi dramatique, mais on va avoir tout l'éventail. L'idée, c'est que chacun, si on a envie de fiction, d'histoire, de comédie, de romance, bah, il y aura de quoi faire. Si on est plutôt sur des perspectives documentées et documentaires, bah, il y aura de quoi faire aussi. Et l'idée, bah, c'est qu'à un moment, même si on est passionné par un genre de cinéma, on va quand même voir le film à côté parce que ça peut être un petit peu tentant. Et du coup, on sort de ces fameux algorithmes qui nous bousillent la vie, quoi. Parce que regardez, d'ailleurs, c'est ça. Effectivement, il y aura beaucoup de Brésil, beaucoup de langues brésiliennes, qui est d'ailleurs magnifique, enfin, chantante, etc. Mais ça va recouvrir des réalités extrêmement différentes. Un point commun, oui, on a l'espoir que les gens vont un petit peu papillonner, en quelque sorte, et avec tous ces éléments, finir par se recréer leur carte mentale du Brésil. Ça va peut-être faire évoluer leur regard. On peut parler des expositions, c'est quelque chose d'important parce que le cinéma, c'est travailler l'image en mouvement, l'image fixe, c'est aussi travailler les décors et les costumes. L'exposition, on va dire, la plus visible, ça va être celle de la chapelle de l'Hôtel Dieu avec un des grands maîtres du carnaval de Rio, en fait, qui va exposer un certain nombre de costumes très spectaculaires qu'il a lui-même portés, enfin, qui sont vraiment, je crois que c'est la première fois. Et ça va être en rapport avec certains films sur le carnaval, le film d'ouverture Orfeu Negro en particulier. Je pense aussi à un autre film documentaire qui s'appelle En attendant le carnaval, qui nous montre comment les gens se ruinent pour venir participer pendant 4 ou 5 jours participer au carnaval et hypothèque toute leur année en quelque sorte passer à venir pour pouvoir faire cette sortie. Donc voilà, ça c'est le carnaval de Rio. Autre expo dans le hall de l'Odyssée, c'est l'expo consacrée au film La Chute du Ciel dont je parlais avec les Indiens Yanomami. Et en fait, le film, il a presque été coécrit, d'ailleurs, comme l'essai qui lui a donné naissance, par le chef Yanomami, qui est le plus vénéré des chamans là-bas. Et on le voit dans le film, c'est fascinant. Et là, on va avoir des photos du film, on va avoir des photos de tournage. Et puis, on aura en plus, à ce moment-là, la présence du réalisateur Éric Rocha, qui sera avec nous. Donc ça, c'est important. Il y aura aussi une expo consacrée au grand, très grand Walter Salles, le réalisateur de Je suis toujours là, qui a fait des tas de films passionnants comme Central do Brasil. Alors, il a fait aussi d'autres films très connus aux États-Unis, où on a, dans d'autres pays d'Amérique latine. Je pense à Carnet de voyage, je pense à Sur la route en particulier. Donc, il a fait tourner les plus grandes vedettes américaines au sens large. Là, dans son tout dernier film qu'il doit venir présenter, il fait tourner les plus grandes vedettes, dont la brésilienne Fernanda Torres, simplement une très très grande actrice. Salles avait déjà fait tourner la maman Fernanda Montenegro plus de 20 ans avant dans le film Central do Brasil. Central do Brasil, qui est aussi un film un peu culte du cinéma brésilien. Et évidemment, on va le montrer également.
Mercredi 5 mars, rendez-vous à 18h pour l'inauguration de l'exposition à l'Hôtel Dieu.
Voilà, et à 20h, projection du film Orfeu Negro. Film, alors, intéressant. Alors, pourquoi ce film? D'abord, parce que c'est un film qui a été un jalon de l'histoire du cinéma brésilien. Film qui n'est pas tout à fait brésilien, hein. Les puristes nous le rediront, qui est un film tourné par un Français, Marcel Camus. Alors, ça nous a vraiment paru intéressant parce que, du coup, ce film, c'est une passerelle, en quelque sorte. C'est aussi une passerelle pour nous. Parce que Orfeu Negro, ça veut dire l'Orphée noir. Donc, c'est le mythe d'Orphée transposé, évidemment, dans le Brésil de la fin des années 50. Et évidemment, Orphée, à quelle civilisation appartient-il? à la civilisation grecque. Donc c'est la passerelle aussi avec le festival de l'an dernier. Donc voilà, ça c'est un petit clin d'œil qu'on se fait. Et d'ailleurs, alors, il y aura le petit-fils de Marcel Camus, du réalisateur, qui est d'ailleurs aussi naturellement le petit-fils de Lourdes de Oliveira, donc une Brésilienne, qui était l'épouse de Marcel Camus. Donc il sera là, lui-même il est metteur en scène, performeur, et il sera présent à l'ouverture lui aussi. Je pense qu'on est, voilà, c'est un événement cinématographique qui est quand même d'ampleur plus que régionale. Et quand, voilà, on a quelque chose, voilà, un événement comme ça qui se déroule à sa porte, il faut avoir quand même, on peut pousser la porte. Ne serait-ce que parce qu'on le fait avec un investissement minimal. On a des cartes d'abonnement vraiment à prix. On ne peut pas réduire plus. On peut faire tout le festival, toutes les séances pour 50 euros. Voilà. Après, on peut aussi entrer à la séance. Et il y a des tas de séances en entrée libre. Donc, l'idée, c'est on a un peu de curiosité. On vient tester. On vient, voilà, on se met dans l'ambiance. On vient voir. Après, il y a des gens qui sont... des voyageurs, de vrais voyageurs dans notre public. Et puis, il y a des gens qui, comme le disait Huysmans, je crois, voyagent très bien dans leur chaise. Bah, c'est un peu le principe du cinéma, ça aussi. Donc, on vous invite à venir voilà, voyager. Tout le monde ne peut pas ou n'a pas envie de prendre l'avion pour des raisons peut-être éco-responsables aussi. On vous invite à voyager par le cinéma. Donc, ça aussi, c'est quelque chose. Et puis, je pense qu'il y a aussi une question de soutien à notre territoire parce que, voilà, on ne se bat jamais assez pour se nord de la région Centre-Val-de-Loire, pour ce nord du département, pour voilà, cette agglo, cette ville, ces villes, la ville de Dreux et le centre. Et ça me paraît extrêmement... ça me paraît essentiel. Peut-être au fil des ans, ça me paraît de plus en plus majeur, en fait, cette façon de se dire bah, on a quand même un festival qui est une forme d'un peu d'étendard de notre territoire. Ça transcende, je pense, et je l'espère en tout cas, les clivages politiques. Il y a par ailleurs une armée de bénévoles, alors je dis armée au sens le plus pacifique du terme, de bénévoles, plus de 30 bénévoles qui contribuent à organiser les séances scolaires, à présenter les séances, à organiser simplement les séances avec leur présence, donner les billets, plus tous ceux qui travaillent à l'écriture du fameux livret du festival, la conception des visuels, etc. Donc, il y a une équipe qui fournit un travail énorme. Et dans cette équipe, voilà, on va dire que 95% des gens travaillent en total bénévolat. Et même les quelques salariés à temps partiel qu'on peut avoir ont un travail qui excède énormément. Enfin, je veux dire que elles ont un investissement absolument énorme et n'a rien à voir avec ce qui pourrait s'appeler une fiche de poste. Donc on travaille dans cet esprit et c'est vrai que je pense que c'est aussi... Alors, c'est peut-être pas... la meilleure la raison d'aller au festival, mais c'est aussi une façon de soutenir ces filles et ces garçons qui se donnent beaucoup et qui, au fil des ans, ont quand même réussi à créer quelque chose qu'on peut aimer ou pas aimer, mais qui existe et qui a l'adhésion du public. Le fait est que, voilà, on n'a aucun festival de cinéma dans toute la région centre qui dépasse les 20 000 entrées. On fait beaucoup mieux que Orléans et Tours. Après, voilà, il se trouve que Dreux, pour des raisons géographiques, voilà, est un petit peu loin. La desserte de la région ne joue pas forcément pour nous. On n'a pas, on capte pas forcément l'intérêt, on va dire, très centraliste et centralisateur de médias régionaux. Hein, ça, bon, on n'y peut rien. On ne peut pas, à nous tout seuls, inverser cette tendance. Voilà, on y contribue. Et peut-être, qui sait, un jour, voilà, quand on en sera à 100 000 entrées, peut-être France 3 s'intéressera à nous. Ça, c'est peut-être... Bon, genre, je ne serai sans doute plus là. Mais c'est une sorte de challenge. Après... je ne sais pas, sur un pays donné, quels sont les invités plus prestigieux que ceux qu'on a ou qu'on va avoir, que l'on pourrait faire venir. Là, c'est juste pas possible. Il faut juste se rendre compte qu'à Dreux, on ne compte plus le nom. Et je ne parle, pour moi, un prix dans un festival, ça ne fait pas tout. Hein. Mais quand même, on ne compte plus le nombre de gens qui sont venus discuter avec le public, discuter avec les jeunes, y compris dans leur salle de classe, qui sont des gens qui ont eu des Césars, des Oscars. Voilà, donc ça fait là aussi partie. Moi, je suis très heureux que les Drouaises, les Drouais et les gens d'Eure-et-Loire en profitent. C'est vrai que voilà, peut-être un des terrains, mais qui est plus un terrain politique qu'autre chose, c'est de se demander comment ce festival pourrait rayonner au-delà, quels moyens il faudrait injecter, comment pourrait se passer la professionnalisation pour qu'on franchisse une marche supplémentaire, tout en laissant évidemment une part importante aux bénévoles, parce que là aussi, le bénévolat est quand même un peu dans l'ADN de notre manifestation. Tout ça juste pour dire qu'on ne s'endort pas sur nos lauriers, surtout que là, pour l'instant, cette année, on n'a pas du tout de lauriers. Je ne sais d'ailleurs pas s'il y a des lauriers au Brésil. Côté végétation, ça va, il y a de quoi faire. On va se débrouiller. Le piège consiste toujours à réussir à réaliser des prouesses avec des moyens et des budgets limités. Et le piège, c'est d'essayer toujours d'en faire un petit peu plus, parce qu'on est incité à cela, d'ailleurs, ce que je comprends, hein, sans que le reste suive, qu'il s'agisse des financements, qu'il s'agisse des moyens humains mis à disposition. Donc effectivement, à partir de là, on devient fragile, parce qu'on a beau être plus finalement de bénévoles ou même de salariés concernés, on se rend compte que notre statut est quand même, si l'un de nous manque à l'appel le jour de l'ouverture, c'est un peu notre système qui s'effondre, parce qu'on est humainement à flux complètement tendu. On n'a pas de filet de sécurité. Et là, nous aurons réussi totalement le jour où, certains des dirigeants du festival pourront être malades pendant 3 semaines et que le festival se déroulera de façon complètement optimale. Là, effectivement, à ce moment-là, nous serons forts et nous aurons gagné réellement le pari de la pérennité. Mais on sait que c'est compliqué en ce moment. Nous avons quand même cette chance d'être dans une région, un département, une aglo, enfin je ne sais pas, de la flatterie, mais c'est vrai, où la culture a encore du sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans certains lieux, on sait ce qui est arrivé avec le festival de Clermont, enfin je ne vais pas citer tout ce qui se passe aussi du côté des Pays de la Loire, où tout est coupé absolument brutalement. Nous, on n'en est pas là, on a encore des gens qui croient en ce qu'on fait, qui ne considèrent pas que ce qu'on fait, c'est une espèce de divertissement qu'on fait pour se faire plaisir et qui n'a aucun impact sur les gens, c'est pas vrai. Et donc là, on a encore, nous, chez nous, des politiques qui, malgré tout, croient en nous, croient dans le côté finalement populaire de cette éducation par la culture, avec la culture, et qui ne font bien la part des choses, qui ont bien compris qu'on ne travaille pas dans une forme d'élitisme, mais du tout. On ne peut pas travailler dans une forme d'élitisme quand on a chaque année des enseignants qui viennent nous dire bah voilà, mais je réinscris tous mes petits de CE1 ou de CE2. On n'est évidemment pas dans l'élitisme. Voilà, ça, ce sont des enjeux pour moi extrêmement importants.
Bien, il suffit simplement de nous contacter, soit par Internet en allant sur le site Regarde ailleurs, où vous avez un onglet qui s'appelle Contact, et vous nous envoyez un petit message avec vos coordonnées et nous vous rappellerons avec plaisir et nous attendons à bras ouverts.
Et vous pouvez venir à n'importe quelle de nos séances.
Oui.
Il y aura forcément des membres de l'organisation. Dans Ciné-Centre, par exemple, il y aura un chalet décoré. Voilà, on invente le chalet brésilien maintenant. Donc, il y aura un chalet décoré aux couleurs du Brésil et du festival. On sera présent aux séances au théâtre municipal. Beaucoup de séances importantes. On sera présent aux séances du lycée Rotrou. Venez nous voir, discuter. Enfin, voilà, nous sommes assez repérables, les gens de l'équipe. Oui. Alors, on peut passer par le site. Il y aura des liens. Il y a des liens. Regardeailleurs.org.
Voilà, tout à fait. Et là, vous trouverez un onglet qui s'appelle abonnement, qui vous renverra sur un autre site pour prendre vos adhésions.
Et on peut travailler. Alors, on met aussi un petit peu partout des QR codes. Ça fonctionne très bien et on peut s'abonner à tarif effectivement modique. Nous avons envie de partir en voyage avec vous. Voilà, visiter, revisiter ou découvrir le plus grand pays d'Amérique latine. Venez découvrir des choses et en même temps, quelque part, nous reconnaître. Parce que, alors, on se rend compte aussi qu'il y a un lien assez... Il y a beaucoup de liens qui se sont tissés dans l'histoire entre le Brésil et la France. Et voilà. Donc, il n'y a pas de raison que ici à Dreux, on ne réactive pas tous ces liens, d'autant que voilà, il y a beaucoup de personnalités brésiliennes, à commencer par son excellence l'ambassadeur du Brésil qui sera là pour l'inauguration du festival le 5 mars. 5 mars, 2 avril, et puis il y aura même quelques petits ajouts après, voilà, parce qu'il y a toujours une séance ou deux qui viennent se greffer, et sur voilà, une dizaine, douzaine même plus de sites différents, toute l'agglo du pays de Dreux et même hors agglo, Nogent-le-Roi avec le ciné mobile et même Chartres.
RDV 95.7 RDV.